Bonjour à toutes, à tous et aux autres. Bienvenue dans cet épisode bonus d'un podcast trans et des violettes sur les ondes dédié à la culture et au genre. Vous y découvrirez un conte pour tous les publics, même et surtout les plus jeunes, ainsi que des conseils lecture accessibles pour aborder les questions de genre et de transidentité. Autour de la table, Pamela, Pauline, Niléane, Jenna, Claire et moi, Clara, on discute et on vous partage nos coups de cœur. Bonne écoute!
Nous allons maintenant écouter un conte de Léowen Terry qui s'appelle La princesse aux corneilles.
Souvent, dans les contes, on a le stéréotype de la princesse qui se fait sauver par son cher chevalier du terrible dragon. Et souvent, quand on est enfant, ce sont souvent ces histoires-là qui nous servent de référence. Et c'est bien dommage, parce que ça vient aussi ancrer des stéréotypes qui ensuite ont des répercussions, non pas dans la fiction des contes, mais dans la vraie vie. Et donc, pour changer un peu ça, je vous présente le conte de Léowen qui s'appelle « La princesse aux corneilles ».
Voici l'histoire de la princesse aux corneilles. La princesse vit dans une belle demeure, avec son père, sa mère et son frère. Devant la porte, il y a des soldats qui montent la garde pour les protéger. Tous les matins, la princesse aux corneilles court dans le jardin. Elle grimpe dans l'arbre. Elle monte sur la plus haute branche, et là-haut, les corneilles l'attendent. La princesse les nourrit. Ensuite, elle redescend, et elle va prendre son petit déjeuner, traînant derrière elle une odeur forte de caca d'oiseau. Ça ne plaît pas à ses parents, mais c'est comme ça. Un jour, une invitation vient. C'est l'invitation du prince. La princesse est en âge de se marier. Alors, ils montent dans la voiture, le père, la mère, le petit frère et la princesse. Ils vont jusqu'au palais du prince. C'est un beau palais, c'est un palais aux 1000 pièces. Le prince les accueille à bras ouverts. Il a un sourire étrange, pense la princesse. Un sourire figé, comme si quelque chose poussait derrière ses lèvres. Mais le prince est généreux. Il y a des cadeaux pour le père, pour la mère, pour le frère et pour la princesse. Alors devant tant de générosité, le père a des petits cœurs sur les lèvres. La mère a des paillettes dans les esgourdes. Le frère a des dollars dans les yeux. Et la princesse, elle suit le prince pour aller visiter le palais, pendant que son père, sa mère et son frère découvrent leurs nombreux cadeaux. Ils visitent le palais, et le prince amène la princesse jusqu'à sa chambre. Et il lui ouvre la porte. Avant d'entrer, la princesse regarde le visage du prince. Son sourire s'est transformé en grimace, comme si quelque chose poussait contre les lèvres pour pouvoir sortir. La princesse entre dans la chambre. Dans la chambre, il y a des barreaux aux fenêtres. Elle se retourne pour demander au prince pourquoi. Et le prince s'est transformé en un horrible monstre. Il ouvre la bouche et un flot injurieux et colérique se déverse dans la chambre, se déverse sur la princesse, la frappe de plein fouet. La princesse s'esquive, la princesse s'enfuit. Elle rejoint son père, sa mère, son frère. Il faut partir! Ce prince, c'est un monstre! Mais le père a des petits cœurs sur les lèvres pour le prince. La mère a des paillettes dans les esgourdes devant tant de cadeaux. Le frère, il a des dollars dans les yeux après avoir déballé ses jouets. Alors la princesse les pousse, les tire dans la voiture. Le prince arrive, il est sur le perron, il va s'emparer de la princesse. La princesse empoigne le volant, elle enfonce l'accélérateur, en route vers leur demeure. Mais elle sait que le prince va venir. Il faut construire des douves pour l'empêcher de rentrer dans notre maison, dit la princesse. Mais le père a des petits cœurs sur les lèvres, la mère des paillettes dans les esgourdes et le frère des dollars dans les yeux. Alors elle parle aux soldats, il faut construire des douves. Mais les soldats ne l'écoutent pas. Voix de femelle se perd dans le ciel. Alors la princesse prend une pelle et elle creuse. Elle creuse tellement qu'elle a mal au bras. Elle a tellement mal au bras qu'elle pleure. Elle pleure en creusant et elle creuse en pleurant. Mais à la fin, elle a des douves. Et dans ces douves coule un gigantesque fleuve de larmes. Il était temps. Le prince arrive et il boit l'eau des douves. « Il faut construire un rempart !» dit la princesse. Mais Petite peur sur les lèvres, paillettes dans les esgourdes, dollars plein les yeux. Et les soldats, ils ne l'écoutent pas. Voix de femelle, finie à la poubelle. Alors la princesse prend une brouette. Elle met des cailloux dedans. Et elle construit son mur. Et comme elle n'a pas de mortier, elle crache entre les pierres pour pouvoir les faire tenir ensemble. Et à la fin, elle a un rempart. Il était temps. Le prince qui a bu l'eau des douves est arrivé de l'autre côté, et maintenant il s'attaque avec ses poings au rempart. « Il faut me cacher, il me faut me protéger !» dit la princesse. « Mais petit cœur sur les lèvres, paillettes dans les escourdes, et dollars plein les yeux, et les soldats n'écoutent pas, voix de femelle, voix de cresserelle !» Alors la princesse s'enfuit, elle court dans le jardin, elle monte dans l'arbre, elle va se percher sur la plus haute branche avec ses amis les corneilles. Il était temps. Le prince a troué le mur, et maintenant il se précipite dans le jardin, et il s'attaque avec ses dents au tronc de l'arbre, et il racle si fort avec ses dents que, c'est certain, il va bientôt abattre l'arbre. La princesse soupire. Mes amis, chère Corneille, je crois bien que c'est la fin. Mais les corneilles se posent sur ses épaules, se posent sur ses bras, se posent sur ses jambes. Elles l'agrippent et elles battent des ailes. Et elles sont si nombreuses. Et elles battent si fort des ailes, les corneilles, qu'elles soulèvent la princesse dans les airs et qu'elles emportent la princesse, qu'elles l'emportent loin, loin, très loin de là. Les corneilles ne se sont pas arrêtées avant d'avoir déposé la princesse dans un autre pays lointain. Et dans ce pays-là, eh bien, les voix de femelles, les voix des filles, les voix des femmes, elles résonnent. Elles se résonnent et sont entendues, aussi bien entre les murs des maisons que dans les rues. Là-bas, la princesse vit heureuse. Elle n'est plus princesse, elle est toujours l'amie des corneilles, et aux dernières nouvelles, la princesse est devenue chef de chantier dans le BTP.
Et voilà.
C'est original.
C'est très intense.
Oui, je pense que l'interprétation le rend très intense aussi, parce qu'elle je vois comme c'est fun à raconter à des enfants, parce que
c'est vivant, elle est active, ouais. La princesse, c'est cool.
Ouais. J'ai souvent, quand j'écoute une œuvre, et particulièrement quand une œuvre dans un cadre où on est susceptible de parler de transidentité, une angoisse préventive à entendre une horreur. Ça me fait ça quand j'écoute la plupart des stand-up comiques, films sur le sujet, petite fille, n'en parlons même pas. Et là aussi. Et du coup, mon angoisse reste sur sa fin, parce qu'il y avait rien d'horrible. mais finalement, je crois qu'on n'a pas parlé de transidentité non plus. Voilà.
Non, je crois pas. Effectivement, ça parle plus, bah, comme Clara l'a dit en introduction, plus de détruire les stéréotypes de genre, en fait, et présenter d'autres modèles. Ce qui, en soi, est hyper déjà cool et nécessaire aussi.
Et une autre chose que je trouve chouette dans ce conte, c'est comment est-ce qu'il questionne les loyautés familiales, c'est-à-dire à quel moment est-ce qu'on décide d'être loyal à sa famille, à quel moment on se dit finalement cette loyauté-là, peut-être qu'elle ne vaut pas la peine d'être vécue jusqu'au bout. En tout cas, je trouve que c'est un conte qui a le mérite de poser cette question-là pour des enfants, ce qui n'est pas simple, parce que forcément quand tu es enfant, ton entourage... que ce soit ta famille biologique ou pas, c'est ce qui fait famille, c'est ce qui fait groupe. Et
ouais, je trouve ça très, très intéressant et très important comme message.
Mais j'aime bien le fait justement que sa famille la rejette en quelque sorte, enfin lui s'en fiche un peu de son point de vue, mais qu'elle elle a pas de réaction d'abattement. Tout de suite, elle est là, bon, bah, ils veulent pas m'aider, alors je me débrouille toute seule. Et c'est dans la réalité, de toute façon, si tu te fais, je pense, si tu te fais rejeter par quelqu'un, il y a toujours un moment où t'es un peu enfin t'es triste, ça va pas, mais je trouve ça cool du fait que de montrer comme c'est pas la fin du monde et s'aider soi-même, c'est cool.
Mais en même temps, enfin, oui, elle compte sur elle-même pour les travaux, pour se défendre, etc. Mais au final, si elle s'en sort, c'est justement parce qu'elle n'est pas toute seule.
Ouais.
Et ça, je trouve ça beau aussi comme, comme message.
Si on reste dans l'interprétation de ce qui se passe dans le conte, enfin, alors ça peut être une interprétation très personnelle, mais pour moi, j'y vois du coup... le sujet des violences sexuelles faites aux enfants. Et ça montre que même si la famille t'entend pas, te croit pas, vient pas à ton secours, il faut en parler à l'extérieur, il faut chercher
d'autres personnes. À l'extérieur. Il y a d'autres personnes qui viendront t'aider.
Et c'est important, je trouve, de pas dire il faut juste en parler à tes parents, ce qui est le conseil qu'on
de
fait
base.
Généralement. Bah oui, mais la plupart du temps, les parents, ils veulent pas entendre parce que c'est quelqu'un proche de la famille, ou bien ils savent pas quoi faire et donc ils préfèrent dire que ça c'est pas arrivé. Enfin, donc non, je trouve que ce message-là est très bien.
J'avais absolument pas pensé à cette interprétation non plus.
Pour ça, je dis que c'est peut-être très personnel.
Non, je.
Ah non, c'est vraiment bien.
Ça me paraît cohérent aussi.
Un podcast trans et Violette sur les ondes. Épisode bonus, culture et genre.
Alors, peut-être, soit un conseil lecture, soit film, voilà, quelque chose qui, à votre avis, peut être chouette si on veut piocher, si on veut continuer à creuser cette question autour du genre. Un élément d'approche, une œuvre d'approche pour chacune, ce serait laquelle ? Chacune.
Je peux peut-être... commencer, parce que je vous en ai déjà parlé aux filles de chez Violette, parce que c'est un livre qui m'a un peu bien marqué. C'est pas tellement pour aborder le genre au tout début, mais c'est un livre qui est très important à mon sens, qui est Stone Butch Blues de Leslie Feinberg. C'est un livre que je conseille vraiment, parce que je peux pas dire j'ai adoré, dans le sens où clairement il y a des moments où tu pleures, parce que c'est voilà, mais c'est un livre qui m'a vraiment profondément marqué.
Dans les œuvres fondation assez du même acabit, je vais suggérer Weeping Girl de Julia Serrano.
Bah alors moi j'ai pas vraiment de livre à recommander et finalement ma découverte de la non-binarité et de mon identité de genre ça s'est fait sur le tas, mais je lis beaucoup de bandes dessinées sur internet et il y en avait une qui à l'époque m'avait fait tilt où d'un coup je me suis dit il y a d'autres personnes, il y a un mot, c'est ça. Donc c'est Chaos Life, donc Chaoslife, et on mettra le lien pour les gens.
Si je peux rajouter, parce que la question, elle était formulée sur si vous voulez un point d'accès facile, si vous voulez approfondir un petit peu les questions, si vous pensez que peut-être vous êtes trans et peut-être que vous avez besoin d'aide pour faire un coming out, wikitrans.co. Voilà, il y a plein de ressources à la fois sociales sur comment parler à la famille, adresser à la famille, comment parler à ses enfants. Et puis il y a des ressources plus techniques sur qu'est-ce que c'est qu'un traitement hormonal, comment est-ce qu'on change de prénom auprès des administrations, etc. Et voilà, c'est du travail qui est fait par des personnes concernées et qui essayent, dans tout ce qui est écrit, d'être le plus simple possible.
Et sur le Wikitrans, plus récemment, il y a une carte de... plus possible, parce qu'on continue à rajouter des assos trans ou assimilés en France. Le but étant, avec cette carte, de si vous êtes dans un certain coin de la France et que vous avez besoin d'un support local, de parler avec des gens à un niveau local. On trouvait qu'il n'y avait pas de moyen central de facilement trouver une asso trans dans son coin de la France, dans son petit coin de France, et du coup... voilà, vous pouvez aller trouver cette carte aussi sur Wikitrans. Et sinon, il y a le trombinoscope pour trouver des gens famous, trans, qui Voilà, pour avoir des modèles, avoir des inspirations, se dire que les personnes trans ont toujours... Il y a toujours eu des personnes trans qui ont réussi et il y en aura toujours. Et donc, voilà. Pour avoir des good vibes, un peu.
J'avais une chaîne YouTube en tête faite par une personne trans, mais je retrouve plus le nom. Je retrouve plus le nom de sa chaîne. Donc, je le mettrai
en description.
Ouais.
H Paradoxa.
Ouais, c'est ça.
Transmission de pensée.
J'allais proposer. Au départ, je lis dans les pensées, c'est plus simple.
Merci.
Et du coup, Clara ?
Et du coup, moi, je recommanderais le podcast Camille et également le livre de Gabriel Richard qui s'appelle « Hétéro, l'école ?» Point d'interrogation. Plaidoyer pour une éducation anti-oppressive à la sexualité. Et c'est un guide qui est très large, qui est très bien écrit, avec une autrice super. Et donc, voilà, n'hésitez pas, jetez-vous dessus. Il est tout petit, il est facile à lire et il donne plein de clés.
C'est la fin de cet épisode bonus sur culture et genre. S'il vous a plu, n'hésitez pas à écouter notre épisode complet dédié au genre. On y parle film et on partage de nombreuses références sur le sujet. N'hésitez pas aussi à écouter les autres épisodes d'un podcast trans, des violettes sur les ondes, mais aussi du tout dernier né, Nos Voix Trans. On prépare aussi un autre épisode sur le sujet du genre, on vous en dira plus dès que ce sera fini. D'ici là, mettez des mots doux dans vos oreilles et sous vos yeux. Vive le thé, vive la sororité et l'adelphité.